Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon et
Rosine Monezero.
Pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 21 juillet 2023.
Au Niger, 12 paysans ont été tués dans leur champ par des hommes armés.
Au Burkina Faso, de nouvelles taxes sont entrées en vigueur dans le cadre des efforts de guerre.
Imposer de nouvelles taxes, sincèrement, c'est de nature à plonger les consommateurs, les contribuables dans la misère. La question, jusqu'à quand ça va durer?
Reportage de notre correspondant à Ouagadougou à suivre dans la partie magazine.
En République démocratique du Congo, le commandant de la police du territoire de Kasenga, dans le Haut-Katanga, a été assassiné. Son corps sans vie a été retrouvé ce matin au fond d'un puits.
Le président russe Vladimir Poutine a estimé aujourd'hui que les livraisons d'armes occidentales n'ont pas aidé Kiev à avancer dans sa contre-offensive.
Ici aux États-Unis, l'État de Floride a approuvé de nouvelles normes controversées concernant l'enseignement de l'histoire africaine-américaine dans les écoles publiques.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Niger, 12 paysans ont été tués hier dans leur champ lors d'une double attaque d'hommes armés dans deux villages d'Anzourou, une commune de la région de Tillabéri. Le point avec Michel Joseph.
Les attaques ont visé Doukou Saraou et Doukou Makani, deux villages de la commune d'Anzourou. Il y a eu 12 décès suite à l'attaque menée jeudi l'après-midi par des hommes armés, a précisé un responsable de la mairie d'Anzourou, et toutes les victimes sont des hommes. Plusieurs villages d'Anzourou ont déjà été ciblés par des attaques meurtrières ces deux dernières années. Des dizaines de personnes ont été massacrées dans leurs maisons et leurs champs ou dans des mosquées par des hommes armés venus à moto. L'immense région de Tillabéri, dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, cette zone est régulièrement frappée par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou au groupe État islamique au Grand Sahara. Ces groupes continuent leurs assauts malgré le déploiement massif de soldats nigériens et français et de l'état d'urgence en vigueur dans cette région.
Au Sénégal, le Parlement a adopté hier une loi supprimant la CRAI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ce tribunal est décrié par les opposants comme étant une juridiction créée pour les mater, ce que ni les autorités, les députés ont évoqué le cas de Karim Ouad, une figure de l'opposition empêchée de participer à la présidentielle de 2019 à cause d'une condamnation de la CRAI.
En République démocratique du Congo, le commandant de la police du territoire de Kasenga, dans le Haut-Katanga, a été assassiné. Le corps du commissaire supérieur principal, Sébastien Kaboulo, a été retrouvé sans vie ce matin. C'est une semaine après l'assassinat du député opposant Chérubin Okende à Kinshasa. Le point avec Eddy Isango.
Le corps du commissaire supérieur principal Sébastien Kaboulou a été retrouvé dans un puits ce matin. Le porte-parole de la police dans les Haut-Katanga, le commissaire supérieur adjoint Charles Esperanto Bin Luamba, a affirmé que les enquêtes ont été ouvertes après la découverte du corps torse nu de l'officier. Sébastien Kaboulou est le frère du ministre congolais des Sports, François Kaboulou. Son assassinat intervient juste une semaine après celui de Chérubin Okende, député et porte-parole du parti de l'opposant Moïse Katumbi, dont les corps sans vie a été découvert sur une grande artère à Kinshasa. Hier, le procureur de la République a déclaré que l'arme qui a tué Okende est celui trouvé dans son véhicule. Son garde du corps qui est en détention avait déjà indiqué avoir laissé son arme dans le véhicule quand le défunt l'avait envoyé depuis le parking de la Cour constitutionnelle déposer une correspondance au bureau des juges.
L'ONG Médecins Sans Frontières a prévenu aujourd'hui qu'elle pourrait cesser d'aider un des rares hôpitaux de Khartoum, toujours en fonctionnement, après 3 mois de guerre, après l'agression de ses employés par des hommes armés. Dans un communiqué, MSF précise que 18 de ses employés ont été abattus et fouettés, et l'un d'entre eux détenu et menacé de mort par les agresseurs à l'hôpital turc dans le sud de la capitale soudanaise.
Au Kenya, des échauffourées entre police et manifestants dans un bidonville de Nairobi ont émaillé vendredi mardi la troisième journée d'action contre la vie chère qui a peu mobilisé. Aucun incident majeur n'a été signalé ailleurs pour cette neuvième journée d'action contre la vie chère. La journée de vendredi est la dernière d'un appel de l'opposition à trois jours consécutifs de mobilisation contre le gouvernement du président William Ruto.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à réfléchir sur l'avenir des opérations de maintien de la paix, soulignant leurs limites dans un monde de plus en plus fragmenté et marqué par une évolution des conflits. Nani Talani.
Le maintien de la paix de l'ONU a contribué à sauver des millions de vies en aidant à préserver des cessez-le-feu et en protégeant des civils des violences. Mais des conflits de longue date, toujours pas résolus, ont mis en lumière ses limites, a déclaré Antonio Guterres en présentant hier son nouvel agenda pour la paix. Selon le patron de l'ONU, ces opérations ne peuvent pas être un succès quand il n'y a pas de paix à maintenir et quand il n'y a pas de mandat clair et réaliste du Conseil de sécurité. Il appelle à une réflexion globale sur l'avenir de ces missions, évoquant des modèles plus souples avec des stratégies de sortie appropriées. M. Guterres encourage les organisations régionales ou sous-régionales à déployer des missions d'imposition de la paix, en particulier en Afrique, et des opérations antiterroristes dirigées par les pays africains. Le Conseil de sécurité a mis un terme à la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, à la demande de Bamako, qui l'accusait de ne pas répondre à ses besoins de lutte contre le terrorisme.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Vladimir Poutine estime que les livraisons d'armes occidentales n'aident pas Kiev à avancer dans sa contre-offensive lancée le début juin. La Russie dit avoir mené des exercices militaires en mer Noire. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Vladimir Poutine juge que la contre-offensive ukrainienne n'a donné aucun résultat pour l'instant.
Aujourd'hui, il est évident que les parrains occidentaux du régime de Kiev sont clairement déçus des résultats de la soi-disant contre-offensive que les autorités ukrainiennes ont proclamé bruyamment pendant ces derniers mois.
Lancée début juin, la contre-offensive de l'armée ukrainienne bute sur des troupes russes retranchées derrière de solides lignes de défense. De l'aveu des dirigeants à Kiev, elle avance à un rythme moins soutenu qu'attendu. Environ 200 km² ont été repris. Vladimir Poutine a mis en garde la Pologne, membre de l'OTAN, qui a augmenté sa présence militaire à ses frontières avec le Bélarus.
Le déclenchement d'une agression contre le Bélarus signifierait une agression contre la Fédération de Russie. Nous y répondrons par tous les moyens à notre disposition.
La Russie a aussi annoncé avoir mené des exercices militaires impliquant des tirs de missiles en mer Noire, théâtre de tensions croissantes avec l'Ukraine et ses alliés depuis l'expiration de l'accord céréalier crucial pour l'alimentation mondiale. Moscou soutient qu'elle considère les navires se rendant vers l'Ukraine en mer Noire comme de potentiels bateaux militaires et les pays dont ils battent le pavillon comme des parties prenantes au conflit.
La Russie a dit aujourd'hui comprendre les inquiétudes des pays africains après l'abandon par le Kremlin de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes en mer Noire. Après la suspension de l'accord, la Russie a affirmé mercredi qu'elle considérait dès jeudi les navires se rendant vers l'Ukraine en mer Noire comme de potentiels bateaux militaires.
La police russe a arrêté vendredi Igor Gurkin, connu sous le pseudonyme d'Igor Strelkov, un influent blogueur critique du commandement militaire russe et ancien chef séparatiste dans l'est de l'Ukraine. L'un de ses derniers messages, publié mardi, semblait s'en prendre, sans le nommer, au président russe Vladimir Poutine. Igor Gurkin y affirmer qu'un minable était au pouvoir depuis 23 ans en Russie.
Ici même aux États-Unis, le Conseil de l'éducation de Floride, dans le sud-est du pays, a approuvé un ensemble de normes sur la manière dont l'histoire des Noirs devrait être enseignée dans les écoles publiques de l'État. Les défenseurs des droits civiques estiment que les élèves devraient être autorisés à apprendre la vérité complète de l'histoire américaine. John Lydon.
Les nouvelles directives ont été approuvées lors d'une réunion du conseil d'administration mercredi à Orlando. C'est le dernier développement dans le débat en cours en Floride sur l'éducation africaine-américaine y compris le rejet par le ministère de l'Éducation d'une version pilote préliminaire d'un cours d'éducation afro-américaine de niveau avancé pour les lycéens qui, selon le ministère, n'avait pas de valeur éducative. Ces nouvelles normes interviennent après l'adoption par l'État, sous l'égide du gouverneur Ron DeSantis, d'une nouvelle législation interdisant d'enseigner dans les écoles des notions suggérant que toute personne est privilégiée ou opprimée en raison de la couleur de sa peau. Manny Diaz Jr., commissaire à l'éducation de Floride, note cependant que les directives abordent aussi les sujets les plus difficiles de l'esclavage et de la violence raciste en fonction de l'âge de la maternelle au lycée. Selon lui, rien n'a été supprimé, y compris ce que nous continuons d'appeler le bon, le mauvais et le vilain.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Une vingtaine de pays veulent devenir membres du groupe des BRICS et d'autres ont fait part de leur intérêt. Le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud se sont dit ouverts à une possible expansion. L'ambassadeur itinérant d'Afrique du Sud pour l'Asie et les BRICS, Annie Sokal, a cité l'Iran, l'Argentine, le Bangladesh et l'Arabie Saoudite parmi les pays intéressés. 69 pays ont été invités au sommet des 5 puissances émergentes à Johannesburg du 22 au 24 août. Le groupe des BRICS représente 23% du PIB mondial et 42% de la population mondiale. Près de 5 milliards de personnes sont actives sur les réseaux sociaux, soit plus de 60% de la population mondiale, selon un rapport de l'agence spécialisée Kepios. Certaines régions sont en fort retrait, comme l'Afrique centrale et de l'Est, où une personne sur 11 seulement utilise les réseaux sociaux. Et en Inde, moins d'un tiers des habitants sont inscrits sur les plateformes sociales. Le groupe américain Meta apparaît parmi les applications favorites avec WhatsApp, Instagram et Facebook, suivant les applications chinoises WeChat et TikTok avant Twitter, Messenger et Telegram. Ipsos a annoncé l'acquisition de la société d'études Omédia implantée au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Mali. Omédia, qui appartenait auparavant à Médiatrie, réalise des études marketing, mesures d'audience et de la veille publicitaire des médias presse et digitaux. Ipsos est l'un des leaders mondiaux des études de marché et sondages d'opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Nous commençons par les nouvelles du mondial féminin. Le Nigeria piège le Canada.
Oui, les Super Falcons ont contraint les Canadiennes, championnes olympiques en titre, au match nul 0-0 pour leur entrée en lice à Melbourne. La gardienne nigériane Chiamaka Nnadozie a arrêté un pénalty de l'emblématique capitaine du Canada, Christine Sinclair. L'assaut final a conduit au carton rouge de la Nigériane Deborah Abiodun à la 97e minute, la première expulsion du Mondial 2023. Ce résultat profite à l'Australie, co-organisatrice du tournoi, qui prend seule les commandes du groupe B suite à son succès contre l'Irlande 1-0. L'Espagne, sans la ballon d'or Alexia Puteas, durant une grande partie du match, a dominé le Costa Rica 3-0. La Suisse a battu 2-0 les Philippines. Ce soir, les championnes en titre américaines font face au Vietnam. Le deuxième représentant africain, la Zambie, fait son entrée en lice demain samedi face au Japon dans le groupe C.
L'Olympique de Marseille se sépare de Dimitri Payet.
L'Olympique de Marseille libère son milieu de terrain et ex-capitaine 36 ans de sa dernière année de contrat. Nous avons décidé de ne pas continuer l'aventure ensemble avec notre capitaine. Ça a pris beaucoup de semaines de réflexion, de discussion, a annoncé le dirigeant espagnol. Attaché à la ville et au club où il jouait sa 9e saison, Dimitri Payet avait un contrat qui le liait à l'OM jusqu'en juin 2024 et lui assurait une reconversion au sein du club. Son avenir se jouera donc loin de l'OM, où il aura joué 8 saisons et demie de 2013 à 2015, puis de 2017 à 2023, pour 326 matchs, 78 buts et 95 passes décisives selon les statistiques données par le club. Une décennie ou presque de passion donc, mais sans jamais avoir remporté un seul titre.
Jordi Alba rejoint Messi et Busquets à l'Inter Miami.
Le défenseur latéral gauche espagnol de 34 ans s'est engagé pour une saison à l'Inter Miami. L'accord comprend une option pour une saison supplémentaire, précise la franchise de Floride. À l'Inter Miami, sans club depuis la fin de son contrat au Barça en juin, Jordi Alba complète le contingent d'anciens Blaugrana arrivés cet été. Le champion du monde et septuple ballon d'or Lionel Messi, le milieu de terrain Sergio Busquets et Gerardo Tata Martino, ancien entraîneur du club catalan. Lionel Messi et Sergio Busquets qui se sont entraînés pour la première fois cette semaine avec leur nouvelle formation pourraient faire leur grand début ce soir contre l'équipe mexicaine de Cruz Azul.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, le gouvernement a institué de nouvelles taxes sur les téléphonies et les abonnements de télévision privée. Le gouvernement qui avait déjà augmenté le prix du carburant et imposé des taxes sur les boissons alcoolisées, le tabac, entend mobiliser des ressources avec ces nouvelles taxes pour faire face à l'insécurité. Pour les organisations de défense des consommateurs, ce sont des taxes de trop, mais les spécialistes en économie essaient d'expliquer la nécessité de ces taxes dans le contexte actuel du pays. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Depuis hier, de nouvelles taxes sur les téléphonies, les télévisions privées, les cessions de terrain hors lotissement sont entrées en vigueur. La loi a été adoptée par l'Assemblée nationale le 24 juin et promulguée par le capitaine Ibrahim Traoré le 30 juin dernier. Le ministre de l'économie Aboubakar Nakanabo donne des détails sur l'effort de guerre à la télévision nationale.
L'idée de la taxe, c'est de faire en sorte que les taux soient vraiment un taux raisonnable pour ne pas augmenter considérablement donc, les prix de consommation d'opérations de téléphonie. Nous avons donc fixé un taux de 5%. Cela signifie que concrètement, si vous faites un achat de 500 francs, la taxe, ça sera 25 francs. Donc, vous allez avoir 525 francs. Si vous faites un achat de 1000 francs, la taxe est de 50 francs. Donc, ça sera de 1050 francs. Ça, c'est pour les téléphonies. Pour les abonnements donc aux télévisions privées, vous avez un taux de 10%. Cela suppose que si le montant de l'abonnement est de 5000, ben, le taux de 10%, ça vous fait 500. Donc, ça sera 5500. Et tout cela, bien sûr, c'est la contribution des consommateurs à l'effort que nous sommes en train de fournir avec donc toutes les forces, que ce soit les forces de défense et de sécurité, les VDP, pour accompagner donc la reconquête du territoire national.
Ces taxes sont de trop selon des organisations de consommateurs. Adama Bayala, président du RENCOF, le réseau national des consommateurs du Faso.
Ce sont des nouvelles taxes qui se greffent à d'autres taxes qui ont pour effet, j'ai envie de dire, de renchérir et de plonger le consommateur dans la misère. C'est une nouvelle contribution de trop. Je ne connais pas ce Burkinabé qui est contre l'effort de guerre pour goûter les terroristes hors de nos frontières. Sauf que le prix à payer, il est tellement fort. Imposer de nouvelles taxes, sincèrement, c'est de nature à plonger les consommateurs, les contribuables dans la misère. La question, jusqu'à quand ça va durer?
Mais on peut expliquer l'instauration de cette taxe. Docteur Abdoulaye Siri, économiste, ancien chercheur à l'université de Ouagadougou.
Vous voyez un peu l'importance en fait du numérique aujourd'hui dans le domaine de l'activité économique, c'est beaucoup plus important par rapport à avant. Et donc, il y a en quelque sorte quelques activités, notamment dans le domaine du numérique, où potentiellement on peut taxer. Ça, c'est valable pour pratiquement toutes les économies, j'allais dire, de nos jours. Si on instaure une taxe, il n'y a pas que le consommateur qui paye. Le consommateur paye, mais on peut vous montrer que l'entreprise aussi a mené d'une part donc, à supporter voilà, une partie en fait, de cette taxe-là.
Des organisations de défense des consommateurs ont déjà lancé des campagnes de boycott pour la baisse des prix des services de téléphonie mobile. Elles disent maintenir la pression sur les opérateurs jusqu'à obtenir gain de cause. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
La situation politique au Sénégal ne laisse pas indifférent l'entrepreneur social et auteur Tion Niang. Le promoteur de la ferme Jeff Zone et conférencier n'exclut pas de se présenter à la présidentielle de 2024. Tion Niang est interrogé par Abdourahmane Dia dans les studios de la VOA ici à Washington.
Je reçois beaucoup de pressions par rapport à ça. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup de du pays, à l'intérieur du pays, dans les villages, à l'intérieur, à l'extérieur du pays, avec la diaspora, avec les amis du Sénégal, et ici aux États-Unis, en France, dans les autres pays qui ont des intérêts dans le pays. Là, je suis à Washington pour les réunions, pour écouter.
Dans ce sens, c'est...
Oui, ça fait partie de pourquoi je suis là. Je vais écouter les gens, et après, si je vois que ce moment, je peux servir mon pays, et que mes rêves pour mon continent, mon rêve pour mon pays, dans cette voie, on peut les réaliser, pourquoi pas? Parce que moi, je rêve qu'au Sénégal, où les jeunes peuvent rêver dans ce pays, réussir dans ce pays, même s'ils vont à l'extérieur et revenir, avoir cette quality of life.
Vous aimez bien donner l'exemple de l'Inde, par exemple.
Parce qu'ils ont compris, les Indiens, ils ont, la même chose en Corée du Sud, quand j'étais là, j'ai vu, c'est des enfants de 14 ans, 15 ans qui font des téléphones comme Samsung, etc., des télévisions, des robots, etc. Et pourtant, il y a quelques années, ils n'avaient rien. Mais ils se sont focalisés sur l'éducation. Singapour a fait la même chose avec les Kuan Yew. Ils se sont focalisés sur l'éducation pour les enfants. Et quelques années après, ils sont en train de compétir avec les Américains, avec les Chinois, les Japonais, etc., et les Européens. Donc, depuis moi, mon retour, je comprends ça. C'est pourquoi j'ai investi que sur l'éducation et la formation. Parce que si on arrive à faire ça avec les jeunes, les femmes, on peut régler les problèmes de l'Afrique et on peut régler aussi la question de l'emploi pour qu'on puisse être autonome et, you know, have been the driving seat of the future of our country. And this, si je vois que c'est rentrer en politique peut amener quelque chose comme ça, je le ferai. Mais pour l'instant, je suis en train d'écouter et si je vois que ce n'est pas le moment pour le faire, je continuerai à travailler dans le privé et soutenir les gens qui pourront continuer à faire ce travail, qui rêvent comme nous pour pouvoir changer le cours de l'histoire pour notre pays et pour le continent.
Donc vous pourriez vous présenter ou alors soutenir un candidat, si je vous comprends bien. Bien. Si vous décidez de ne pas vous présenter.
Bien sûr, parce que j'aurais aimé un candidat qui va venir faire le travail qu'il faut continuer, le travail que le président Macky Sall a pu faire, avec ses résultats, pour qu'on puisse régler, parce qu'on a beaucoup d'urgences dans le pays, au Sénégal, beaucoup d'urgences, et j'aurais aimé un président qui pourra utiliser cette capacité des jeunes Sénégalais de partout dans le monde qui peuvent amener leurs compétences pour changer le pays.
C'était l'entrepreneur social sénégalais Thion Niang.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
La conférence de Kigali sur l'espace, solidarité et solutions a conclu ses travaux hier jeudi après 3 journées intenses. Cet événement a rassemblé diverses organisations engagées dans la défense des droits de la femme et de la jeune fille, des sujets tels que l'inclusion sociale, la santé, de la reproduction et l'accès équitable aux ressources ont été discutés en profondeur. Eric Manirakiza, agent à Kigali au Rwanda, Drosella Munderere, l'une des participantes à ces assises, elle partage ses perspectives sur ses réflexions.
Et je travaille dans des milieux où je suis en contact avec les femmes du milieu rural, des femmes évoluées, des femmes non évoluées de toutes catégories. On vit avec les jeunes filles pour lesquelles on cherche la promotion. Et pour mon travail, j'ai appris que je dois améliorer et j'ai appris des approches différentes de toucher différentes catégories de personnes avec lesquelles je suis appelée à travailler, mais aussi j'ai appris que la conscience personnelle et la maîtrise de ce qu'on doit faire, c'est ça l'arme principale qui doit guider tout activiste ou tout travailleur qui travaille sur la promotion de la femme.
Il y a des chefs d'État qui ont participé à cette conférence. Est-ce qu'ils vous ont promis leur soutien? De quel type?
Oui, il y a eu des chefs d'État, même des représentations des pays, des parlementaires, les premières dames qui nous ont promis des travailler sur les politiques de leur pays en fait d'intégrer l'amélioration de ce qui est loi et texte qui protège davantage la femme et la jeune fille, en tenant compte aussi des autres catégories de la population qui sont victimes de discrimination, parce que nous travaillons sur l'égalité du genre. La prochaine étape va consister maintenant à créer plus de connexions, parce que c'est ce que nous avons trouvé qui est un grand besoin. On va encore travailler sur les connexions, mais aussi travailler, nous avons plus besoin des ressources, de mobiliser des ressources.
Drosela Munderere, elle est conseillère principale à Chorus International à Goma.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Broccoli City Festival, l'un des plus grands festivals de musique urbaine de la région, a eu lieu ici même à Washington DC. De nombreux artistes tels que Ice Spice, Keke Palmer, Jasmine Sullivan ou Asaki n'ont pas hésité à envoyer la sauce et offrir à leurs fans des performances inoubliables. Reportage de Sims Lumami et Ginny Niwa, relaté par Michel Joseph.
Des milliers de fans se sont rassemblés au stade emblématique RFK pour assister aux performances d'un éventail d'artistes hip-hop, R&B et afrobeat. Alors que la pluie et le soleil se disputaient la vedette, les fans ne pouvaient détacher leurs yeux de leurs idoles.
J'adore leurs artistes, la variété de musique qu'il y a. Nous irons jeter un coup d'œil dans les quartiers aux alentours pour visiter les magasins et autres. Mais jusqu'à présent, l'expérience a été formidable. Nous avons adoré. C'est mon premier festival de musique.
Les visiteurs et les artistes se sont tous accordés pour transmettre un niveau d'énergie explosif, à l'instar des étoiles nigérianes, de l'afrobeat, Rima et Asake, qui ont enflammé la scène et surtout la foule. En coulisses, Saucy Santana, l'ancien maquilleur devenu rappeur, en a profité pour livrer ses conseils et les secrets de son succès.
Être original, être moi-même. Après, ce n'est pas facile de se réveiller tous les jours et d'être soi-même. Il ne faut pas s'inquiéter sur ce qui préoccupe les autres. Ne t'inquiète pas pour les autres. Contente-toi de faire ce que tu as à faire.
L'un des instants les plus inoubliables restera le moment où il s'est mis à pleuvoir comme par magie, au même moment où Coco Jones a chanté une reprise de Rain, la pluie, de SWV. À croire que la pluie avait assisté aux répétitions. Les fans ont adoré le spectacle.
Oh mon Dieu, nous sommes restés assis sous la pluie pour Coco Jones. Elle a été formidable. Peu importe le temps, on s'amuse bien ici. Ça fait plaisir de voir des Noirs et tout type de personnes se rassembler, s'amuser et faire la fête. J'apprécie chaque minute.
Pour les fans qui ont raté leurs idoles, qu'à cela ne tienne, tous les spectacles étaient à la hauteur. Des sulfureuses chorégraphies de City Girls, des paroles de Ice Spice au timbre envoûtant de la voix de Jasmine Sullivan. Céleste Caffin, une festivalière.
Tout va bien.
Nous avons raté Jasmine Sullivan hier, mais tout se passe très bien aujourd'hui.
Titi Palmer a prouvé qu'être une nouvelle maman n'enlève rien au talent et encore moins à la générosité, puisqu'elle a distribué 10 000 dollars à la foule enjouée.
Salut, c'est James. Les gens m'appellent Puffer. Je suis au Broccoli Fest en ce moment même. C'est tellement fou. Là, nous sommes dans les coulisses.
Fans et vendeurs des quatre coins des États-Unis se déplacent chaque année pour le Broccoli City Festival à Washington DC, qui représente le parfait mélange entre le dynamisme des régions du Nord, des terres du Sud.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro, à la mise en onde, Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.